Africa.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour le Maroc, bonjour l'Afrique, ravi de vous retrouver sur le dernier numéro consacré à Mars Africa pendant le mois sacré du Ramadan. Toujours entre 10h et 11h, sur notre continent c'est pendant cette période entre 10h et 11h GMT. Et nous aurons au menu deux sujets principaux, mais d'autres sujets également peuvent entrer en ligne de compte. Les deux sujets principaux au sommaire sont les éliminatoires féminines des JO de Paris. Hier, il y avait les matchs allés du dernier tour qualificatif et on rappellera les résultats, la victoire du Nigeria face à l'Afrique du Sud 1-0 et le succès très important déplacement du Maroc face à la Zambie 2-1 avec un but dans les derniers instants du match signé Rosella Yann. Nous reviendrons également sur les matchs de Champions League disputés hier avec les qualifications in extremis de Mamelodi Sundowns, celle un peu plus aisée de l'Ali d'Égypte en attendant les deux matchs au programme de ce soir, à savoir la confrontation entre Petro Atlético et le TP Mazembe. Nous aurons des nouvelles du club de Lubumbashi avec notre ami Michel Taubeau, sans oublier le match entre la SEC d'Abidjan et l'Espérance de Tunis avec cette fois-ci aux manettes Elisabeth Goli et Ahmed Adela. N'oublions pas également la Coupe de la CAF avec la confrontation un peu compliquée du Stade Malien avec Drissa Niono et puis les soucis de la Fédération Camerounaise de Football. Donc nous essaierons de vous proposer le meilleur programme possible avec une première escale à Boïkon au Bénin avec notre ami Élysée Onkpatine. Bonjour.
Et bienvenue à Boïkon au Bénin où il fait excessivement chaud, hein, 41 degrés, vous imaginez.
41 degrés, vous imaginez, mais des difficultés à avoir un bon son de la part de notre ami Élysée Onkpatine, qu'on va essayer de joindre cette fois-ci au téléphone pour pouvoir avoir son son de cloche concernant toute l'actualité africaine et en particulier les deux sujets principaux que nous allons vous proposer au cours de cette émission, à savoir les éliminatoires des JO et les compétitions des clubs. Je précise qu'il y a beaucoup d'actualités sur notre continent. Ça bouge. Et nous sommes toujours ravis d'avoir Élysée Onkpatine. Cette fois-ci, le son va être meilleur. Bonjour, cette fois-ci, Élysée. J'espère que c'est la bonne prise. Alors, on disait, Élysée, on va commencer par le tournoi olympique de football ou le tournoi pré-olympique. Et cette victoire très importante du Maroc à Ndola en Zambie sur le score de 2-1. Et pourtant, ça n'a pas été très facile pour les Lions de l'Atlas.
Pas du tout facile, hein, à Ben Birouk. Il faut le dire, puisque les Marocains ont déjà pris l'avantage. Et on pensait que ça allait être bien géré, hein, durant les 90 minutes de jeu. Mais c'était sans compter sur la détermination de ces Zambiennes qui, quand même, restaient intraitables à domicile et sont revenus rapidement, bon, pas rapidement, mais sont revenus quand même au score et ont même mis tellement de pression sur les Marocaines qui ont quand même pu étaler leur expérience, puisque quand on parle d'expérience aujourd'hui en matière de football féminin sur le continent, on ne peut plus enlever le Maroc. On connaît bien sûr ces pays-là qui font forte sensation actuellement en matière de football féminin. Donc les Marocains, les Marocaines ont résisté à ces différents, à ces différentes pressions, à ces assauts offensifs. Donc vous imaginez, donc les Marocaines quand même ont su garder bien sûr la tête haute et ont su quand même gérer et cette pression. Mais par la suite, ont mis un second but synonyme d'un léger avantage, hein, avant le match retour prévu le mardi prochain. C'est quand même une belle option, hein, une belle option en attendant de jouer à domicile, puisque là, les Marocaines ont déjà une victoire dans leur escalette. Donc, il s'agira très simplement de bien gérer le match retour face à ces Zambiennes déterminées. On l'a encore vu une fois avec la meilleure joueuse de cette équipe zambienne, l'attaquant qui a tout donné hier sans pour autant laisser des traces, puisqu'il faudra quand même permettre, elle devrait permettre à cette équipe zambienne de prendre l'avantage à domicile. Non, c'est quand même les Marocaines qui l'ont pris et qui, quand même, vont gérer le match retour pour pouvoir s'offrir l'un des deux tickets qualificatifs pour les Jeux de Paris prévus en juillet prochain.
On va, si vous voulez bien, proposer la déclaration du sélectionneur de l'équipe du Maroc, Jorge Vilda. C'est juste après la fin du match, Jorge Vilda, qui estime que l'équipe a donné le meilleur d'elle-même et qu'elle méritait amplement cette victoire. Maintenant, rien n'est encore fait, puisque l'équipe du Maroc a encore 90 minutes à gérer. On rappelle aussi que le but à l'extérieur n'est pas valable dans les JO, donc il va falloir que les Marocains n'encaissent pas de but, parce qu'un 1-0 en faveur des Zambiennes signifierait tout bonnement qu'on irait en prolongation. On écoute tout de suite Jorge Vilda.
Muy competido en el que hemos tenido muchas ocasiones de gol.
Un match très disputé avec beaucoup d'occasions de but. Évidemment, nous avons essayé de tenir, de respecter le plan de match et surtout, nous avons été très dangereuses en transition. Nous aurons souhaité mieux gérer la deuxième période. Elles ont obtenu plus de coups francs, mais elles ont marqué à partir de l'un d'entre eux. Un partout, c'était un résultat acceptable. À 2-1, c'est encore mieux pour aborder le prochain match au Maroc avec le maximum de garanties.
Para encarar con las máximas garantías el partido que vamos a jugar en Marruecos.
Alors, ton avis sur la déclaration du sélectionneur champion du monde avec l'Espagne, Jorge Vilda, qui reste très modéré dans ses déclarations. Il dirait qu'il va falloir se méfier davantage de cette équipe zambienne blessée dans son amour-propre mardi à Rabat.
Eh bien évidemment, puisque vous venez de l'énumérer, hein. Les buts marqués à l'extérieur ne sont pas valables, hein, quand il s'agit des Jeux Olympiques. Donc, il suffira simplement aux Zambiennes, hein, de remporter le match retour et on assistera aux séances des tirs au but. Et là, quand il s'agit des séances des tirs au but, on ne sait pas forcément qui va s'imposer. Donc, il faut éviter ce scénario-là et jouer à fond, puisque là, le sélectionneur à l'Espagne, hein, qui est un expérimenté, hein, qui a déjà remporté, vous venez de le dire, le mondial avec l'Espagne récemment, donc, et il le sait très bien. Donc, il faudra pas dormir, il faudra pas dire, bon, voilà, on vient d'achever le plus gros travail. Non, le plus gros travail reste le match retour, hein, mardi, prévu mardi prochain, du côté du Maroc. Donc, vous imaginez, donc, c'est un match où tout est encore possible. Donc, là, il dira simplement à ses joueurs, voilà, le compteur est mis encore à zéro. Il faudra tout faire et s'imposer à domicile. Donc, ce sera un match de pression de plus. Une pression de plus, hein. Quand je dis une pression de plus, là, puisque comme le but à l'extérieur n'est pas valable, donc il faudra forcément s'imposer ou prendre un résultat nul. Mais quand on se dit il faut prendre un résultat nul, on se met plus davantage la pression. Donc, le plus important, c'est d'aller chercher la victoire, rien que la victoire, et cette sélection marocaine en est capable, vu ce que le pays est en train de réaliser depuis près de 5 ans quand il s'agit de football féminin.
On va se pencher également sur la finale avant la lettre. Bon, elle opposait les deux meilleures sélections africaines au classement FIFA. Le Nigeria a battu l'Afrique du Sud 1-0. Est-ce que ce résultat est rassurant pour les Nigériennes ou bien il va falloir s'attendre à un sursaut d'orgueil des championnes d'Afrique en titre chez elles à Johannesburg?
Ah, Amin Birouk, moi je dirais que c'est plus rassurant, hein, puisque quand il s'agit des matchs où il faudra aller jouer en aller-retour, le plus important c'est déjà de gérer le match aller, quel que soit l'endroit. Donc le plus important aujourd'hui c'est la victoire, et les Nigérians l'ont fait. C'est un résultat plus qu'important, puisque le match retour s'annonce indécis, s'annonce palpitant, et il y aura un match très ouvert, puisque là, les Sud-Africaines championnes d'Afrique en titre vont devoir sortir pour aller chercher d'abord le premier but, qui sera un but égalisateur, et maintenant le but victorieux. Donc ça s'annonce très compliqué, puisque en face, c'est quand même la meilleure sélection africaine de football féminin de tous les temps. C'est le Nigeria, même si ces dernières années, eh bien, le Nigeria ne convainc plus. Mais quand même, le Nigeria reste le Nigeria. Donc, quand les Sud-Africaines auraient dû bien négocier le match aller, ne pas perdre, c'était ce qui devait être le mot d'ordre. Mais perdre 1-0, c'est vrai, on dira, c'est un résultat étriqué. Mais c'est plus qu'important, puisque au match retour, comme je viens de le dire, il faudra d'abord égaliser, puis après prendre l'avantage. Mais en face, ce n'est pas n'importe qui. C'est bien le Nigeria qui est la meilleure sélection de football féminin en Afrique, qui a le pays qui a plus remporté la Coupe d'Afrique féminine. Donc vous imaginez, ça s'annonce compliqué pour les Sud-Africaines. Même si elles sont championnes d'Afrique en titre, le Nigeria en face n'est pas un petit pays. Donc ça va être un match très compliqué, bien évidemment, pour les Sud-Africaines.
Et on comprendra où vont les préférences des Béninois qui seront les plus fidèles supporters des Falcons mardi prochain. Alors Élisée, il y a la Champions League africaine, puisque ça se déroulait quasiment en même temps que ces matchs des JO. Deux quarts de finale disputés hier en retour. Et on a senti une équipe plus fébrile de Mamelodi Sundowns qui a dû cravacher pour éliminer une surprenante équipe de Young Africans avec un petit scandale arbitral, à mon avis. Ce but qui est rentré en faveur, le ballon a franchi la ligne de but entièrement en faveur des Young Africans. Et l'arbitre mauritanien et la Salvar n'ont pas moufté et ne l'ont pas accordé.
Bien évidemment, c'était le tournant du match, hein, Amin Birouk. On pensait déjà à ce petit avantage décroché par les Tanzaniens qui ont été costauds comme à l'aller. Au retour aussi, ces Tanzaniens ont montré beaucoup de belles choses, beaucoup de bonnes choses. Et défensivement, ils ont posé d'énormes problèmes à ces Sud-Africains malgré leur jeu et qui n'ont jamais trouvé la faille. Vous imaginez, ça restera jamais gravé dans les mémoires des Tanzaniens qui ont cru à un moment donné à cette qualification, puisque quand ce but sera validé, vous imaginez la suite, les Sud-Africains qui ont mis plus d'une heure de temps à ne pas trouver la faille, et puis après avoir encaissé ce but, est-ce qu'ils auront du répondant pour venir au score et prendre l'avantage? Donc c'est un scandale, vous l'avez dit, et je le conçois aussi, c'est un scandale arbitral. Ça ne manque pas en Afrique, on espère que cela ne se reproduira plus dans les années à venir, puisque ça a privé tout simplement cette belle formation tanzanienne, champion du Tanzanie en titre. Donc vous voyez, donc c'est quand même décevable de voir cette équipe qui a tout donné, qui a fait douter la grande sélection de Mamelodi Sundowns, qui depuis 10 ans est quand même constant en Afrique et a remporté même récemment la nouvelle compétition africaine des clubs. Donc les Tanzaniens n'ont pas pu passer. L'autre club tanzanien aussi tombe facilement quand même au Caire, puisque la défaite du match aller à domicile en disait long face au tenant du titre, le National Al Ahly du Caire, toujours égal à lui-même. Donc on n'aura pas un club tanzanien qui est en demi-finale, puisque déjà la saison dernière, eh bien, c'était le niveau exact, c'était les quarts de finale où Simba a été éliminé. Donc ça manque un peu du répondant, et vu le travail qui est en train d'être abattu du côté de la Tanzanie, peut-être on verra une toute autre visage de ces deux clubs tanzaniens qui seront vraisemblablement encore présents en phase de poule la saison prochaine. Et c'est amer concernant les Young Africans qui logiquement auraient dû remporter cette explication, cette double confrontation contre les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns.
On va aussi se pencher sur la victoire plus facile que prévu d'El Ahly, qui a gagné à l'aller 1-0 et au retour 2-0 face à cette équipe de Simba. Plus que jamais, dès qu'il y a les matchs élimination directe, le roi d'Afrique au niveau des clubs, El Ahly, avec ses 11 Champions League, pointe le bout du nez et se profile comme le principal favori, Élisée.
Oh oui, et même hier, l'entraîneur suisse a même eu le plaisir de mettre à la touche le Sud-Africain Percy Tau, vous imaginez, en associant en attaque le Marocain et le Français, quand même, ils ont eu un duo d'attaque qui n'a pas trop fonctionné en première partie, mais en seconde partie, on a vu véritablement cette sélection égyptienne, ce club égyptien, le géant du Caire, comme on a si bien l'habitude de l'appeler, le géant du Caire, a toujours géré ces matchs à élimination directe. Hier encore, le tenant du titre a répondu présent. Il a un signal fort pour dire qu'on est encore présent, on est encore à vie, et attention pour les demi-finales et pourquoi pas les finales. En tout cas, c'est un éternel champion qui vient de se qualifier pour les demi-finales. Les Tanzaniens se sont bien bataillés, mais ne pouvaient pas faire grand-chose face à cette grande équipe du National Al Ahly du Caire. La logique a été respectée. Eh bien, Al Ahly, avec ses grands joueurs, ses internationaux, parce que quand on parle de ces internationaux-là, c'est rare de voir un club sur le continent donner tant d'internationaux à de différentes sélections. Donc, c'est quand même un grand club, une grande équipe de football sur le continent. Et Al Ahly du Caire a répondu présent et sera bel et bien présent en début finale.
Al Ahly sur lesquels il faudra compter encore, comme chaque année, en compétition continentale. Je remercie Lisiane Patine pour son passage. Et on ira dans quelques minutes pour nous pencher sur ce match entre Ali et Simba avec notre ami Tariq Ardouane depuis le Caire pour essayer de comprendre ce qui s'est passé dans cette confrontation. Ali l'Itahalat Menjdid ou l'Ikat Rabah Makena, quelle aide مع احسن اربع فرق في الشامبيونز ليغ الافريقيه. طارق رضوان صباح الخير.
صباح النور، اهلا بحضرتك وكل سنه وانتم طيبين.
كل سنه وانت طيب وكل سنه والشعب المصري يعني طيب. كلامنا على فريق الاهلي الذي تاهل امام فريق سيمبا، اظن ان النتيجه هل يعني تجسد ما رايناه في ارضيه الملعب خصوصا في مباراه العوده بالقاهره؟
والله نتيجة إلى حد كبير نتيجة منطقية، يعني صحيح سيمبا كان في الشوط الأول أكثر سيطرة وأهدر يمكن فرصتين أو ثلاثة، بس نتيجة في مجملها يعني نتيجة منطقية. أنت عارف أنه سيمبا ليس فريق بطولة، يعني كثيرا ما يصل إلى الدور إلى دور المجموعات إلى الدور ربع النهائي، لكنه لا يتخطى أبدا الدور ربع النهائي. والأهلي عنده خبرات كبيرة طبعاً، وهي الفكرة مش بالسيطرة فقط أو بإهدار الأهداف، الفكرة بالنتيجة النهائية للمباراة. فالأهلي قدر بخبرته إن هو يعني يلعب على الجانب ده، وقدر إن هو يخرج في النهاية فائزاً بنتيجة 2-0، وكان كسب ذهاباً 1-0. فريق سيمبا فريق كويس، فريق يانج كمان أفريكانز لعب قدام سان داون فريق كويس، لكن الخبرة والوقت بيلعب دور كبير. يعني
عامل الخبرة كيكون مؤثر في هذه المباريات. نفس الشيء في مباراة سان داونز ويونغ أفريكاز. كلمنا كذلك على فريق الأهلي الذي اعتمد كلاعب أساسي على رضا سليم. تقييمك بالنسبة لأداء اللاعب المغربي القادم فريق الجيش الملكي؟
طيب، أنا يمكن ربما أول واحد في الإعلام المصري تحدث عن رضا سليم من عامين لما كان هداف الدوري المغربي، وبعدين العام الماضي لما لعب دور كبير جدا في فوز فريقه الجيش الملكي بالتتويج ببطولة الدوري، وأشدت بيه لأنه لاعب جيد وكان في المنتخب الأولمبي المغربي وعنده خبرات وبيجيد المراوغة وبيتحرك بشكل جيد. فأنا شايف أنه هو مكسب وإضافة للنادي الأهلي، ويعني هو رجع يعني من فترة قليلة من الإصابة، لكن رغم كده بيؤدي بشكل جيد، فأنا بتمنى له التوفيق. يعني المغاربة ليهم تاريخ وليهم عملوا يعني شكل جيد في الدوري المصري، يعني بنتكلم على أشرف بن شرقي، بنتكلم على محمد أناجم، بنتكلم على وليد أزارو، بنتكلم على محمد الشايبي، كلهم وليد الكارتي، كلهم عملوا إضافة وبصمة جيدة جدا في الدوري المصري وفي الكرة المصرية. يعني بالإضافة طبعا لرضا سليم برضو لاعب جيد أكيد،
بالرغم أنه الإعلام المصري يكون شوية قاسي أمام اللاعبين المغاربة. آخر سؤال طارق رضوان
بخصوص بالعكس، لا اسمح لي أعقب على ديت. أشرف بن شرقي كان معبود جمهور الزمالك، وكانت الناس بتحبه بشكل غير عادي، وفي محاولات لرجوعه لغاية النهاردة، وفي كلام معاه وفي تواجد دائما. يعني رضا العشرة بن شرقي،
يعني الكلام على أشرف بن شرقي ولكن درجة أقل على أداء وليد أزارو. ختامه مسك، سيكون مع كأس الكونفدرالية، وبالنسبة للزمالكويين موعد مهم لتأكيد نتيجة الذهاب أمام فريق فيوتشر.
صحيح، مباراة صعبة جدا بكرة للزمالك، رغم انه كفاز 2-1، بس انت تلعب في النهاية في القاهرة ومش فارقة الحاجات دي. فبالتالي يعني احنا هنشوف مباراة جيدة. الفريق فيوتشر كان ممكن جدا يربح في المباراة اللي فاتت، ويعني قبل هدف الزمالك مباشرة جات كرة في القايم، وكان لو سجلها كان ممكن ماتش يخلص 2-1 فيوتشر. فبالتالي نتيجة 2-1 مش بعيدة سواء هنا أو هنا، فالزمالك لازم يأمن طبعا غدا بتسجيل هدف مبكر يعني يصعب به المهمة، ولازم يستفيد بوجود جمهوره. يعني الأمن سمح بحضور 30,000 متفرج للقاء، جمهور الزمالك طبعا عنده وفاء كبير جدا وهيكون في الموعد. ويعني طبعا يعني أنا كنت أتمنى انه احنا بنتكلم على دوري على الكونفدراليه، عندنا نهضه بركان من المغرب وعندنا زمالك فيوتشر ومصر، كنت أتمنى أن يكون الوداد موجود في دوري الأبطال، بس للأسف الشديد يعني خرج مبكرا، وفضل الأهلي والترجي بقى من عالمنا العربي بالتوفيق ليهم. يعني
الوداد اللي أعلن على تعيين مدرب جديد هو عزيز بن عسكر لقيادة النادي إلى آخر الموسم. شكرا جزيلا طارق رضوان على هذه الالتفاتة وعلى هذه المداخلة، وإلى اللقاء في فرصة مقبلة إن شاء الله. Il est 10h22 minutes sur Radio Mars. Nous irons du côté de la Côte d'Ivoire avec Elisabeth Goli. Il y a un match important qui se disputera ce soir entre la SEC et l'Espérance de Tunis. Bonjour Elisabeth.
Oui, bonjour Amine.
Alors on va commencer déjà par le match aller où la SEC a limité la casse en revenant avec un nul 0-0. Mais un score de 0-0 dans les compétitions africaines des clubs, c'est une arme à double tranchant.
Oui, effectivement. Effectivement, c'est une arme à double tranchant et la SEC Mimosa en a conscience. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle est vraiment déterminée à obtenir la victoire à domicile pour assurer vraiment sa place dans la prochaine phase de cette compétition. Et donc, la SEC vraiment compte sur tout son effectif, notamment le gardien Charles Folie Ayayi qui a fait qui a livré un très beau match en Tunisie. Et la SEC compte également sur Aka et Sis Baudelaire. Et bien sûr, Julien Chevalier est vraiment disposé à tout mettre en œuvre pour pouvoir franchir cette étape et en venant à bout de l'Espérance de Tunis. Il n'y a pas seulement que l'entraîneur Julien Chevalier, mais il y a aussi les supporters qu'on appelle les actionnaires qui sont tous vraiment mobilisés pour accompagner leur équipe. Ils sont mobilisés à constituer le 12e homme face à l'Espérance de Tunis. Et connaissant aussi cette équipe, connaissant aussi les compétitions africaines, vraiment c'est vraiment à l'unisson que la SEC Mimosa va affronter l'Espérance de Tunis. Ne se disant pas que c'est déjà acquis, non. Mais la SEC est prête vraiment à affronter l'équipe. Et tout comme la SEC, il faut dire aussi que l'entraîneur de l'Espérance de Tunis, Miguel Cardozo, est également disposé. Lui aussi, il se dit qu'il a ses chances. Donc, il va également battre en cap pour pouvoir également, à l'instar de la SEC, obtenir le ticket.
Alors, quels sont les atouts ce soir de la SEC d'Abidjan pour pouvoir retrouver, pour la première fois depuis fort longtemps, une place dans le dernier carré de la Champions League?
D'abord, c'est le mental du groupe, parce que c'est un groupe qui est vraiment déterminé, qui est très, très, très soudé et qui a la confiance de son entraîneur Chevalier, qui compte, Julien Chevalier compte vraiment sur toute son équipe. Et l'avantage de la SEC, c'est que le vestiaire, il est à 100%, il n'y a pas de malade et autres. Donc, tout son effectif est là et il compte surtout sur la charnière défensive dont le gardien Charles Folie Ayayi, qui est le dernier rempart, qui a fait une très belle prestation et qui joue encore de la sympathie du public ivoirien, qui joue encore de la victoire à la CAN et autres. Donc, au-delà de Ayayi Folie, il y a aussi un bon groupe au niveau offensif. On peut compter sur Poku et autres qui vraiment ne comptent pas, n'envisagent pas se faire dominer sur leur territoire, sur leur terrain, par l'Espérance de Tunis. Et ils veulent vraiment reproduire le bon match et aller au-delà même de ce qu'ils ont fait à Tunis.
Donc, que le meilleur gagne et qu'il y ait du spectacle ce soir à Abidjan. Il y a une dynamique de la Coupe d'Afrique des Nations et on le sent au niveau du rendement de la SEC d'Abidjan, qui a toujours été un des plus grands pourvoyeurs en joueurs internationaux de qualité de la sélection des éléphants. Merci beaucoup Elisabeth Goli, on se retrouve la semaine prochaine pour continuer à parler de compétition continentale, puisqu'on fera le bilan des demi-finales et on se projettera sur la suite de la compétition. Il est 10h27 sur Radio Mars. Ah, il va falloir aller à Tunis, il va falloir parler de l'Espérance de Tunis. Il faudra penser peut-être voir comment l'Espérance peut damer le pion à l'équipe de la SEC d'Abidjan. Est-ce que ce 0-0 à Rades n'est pas un si mauvais résultat que ça? Il y a aussi le football féminin, puisque la Tunisie est en train de retrouver des couleurs, puisqu'elle l'a gagné en amical contre son voisin algérien. Voilà des sujets que nous allons aborder avec notre ami Ahmed Adala dans les prochaines minutes. Ahmed Adala, en attendant, nous irons du côté de Lubumbashi, puisqu'il y a un autre quart de finale. Il y a eu un 0-0 également à l'aller entre le TP Mazembe et l'équipe de Petro Atletico, qui n'a toujours pas concédé le moindre but en 7 rencontres de Champions League. Est-ce que les Corbeaux peuvent encore réaliser la surprise à Luanda en Angola? Bonjour Michel Tobo.
Bonjour Amine, bonjour à tous les auditeurs de Radio Mars. Merci infiniment justement de me donner encore ce petit moment pour intervenir sur l'actualité footballistique en République démocratique du Congo. On va regarder bien évidemment justement ce quart de finale retour de la Ligue africaine de champions avec le tout-puissant à Mazembe. 0-0 à l'aller, donc les deux formations vont tout refaire justement à Luanda pour essayer de se départager. C'est vrai, les Angolais gardent encore leur, on va dire, leur cage inviolée depuis les débuts de cette compétition. Ils l'ont encore montré à Lubumbashi il y a une semaine, mais voilà, ça serait un match, bon, je dirais pas compliqué. Les deux équipes ont eu justement à se croiser. Les deux entraîneurs ont eu assez de jugeote justement pour avoir voilà, établir la stratégie qu'il faudra justement pour essayer de venir à bout l'un ou de l'autre. Donc, ça sera un match intéressant à suivre. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt tout justement. Mais Mazembe part avec, on va dire, une petite avance en termes psychologiques, tout simplement parce que Mazembe va faire jouer son expérience, bien que voilà, l'avantage du terrain reviendra tout naturellement aux Angolais du Petro Atlético, qui n'ont encaissé aucun but, comme vous le savez, depuis le début de cette Ligue des Champions. Voilà, ça serait un match, comme je le disais tantôt, intéressant à suivre. Mais bon, nous, du côté congolais ici, comme je vous le disais déjà depuis le samedi dernier, on espère que Mazembe va justement avoir cette qualification pour, on l'espère, nous permettre de reconquérir la place qualificative en Coupe de la Confédération que nous avons perdue cette saison. Donc, raison pour laquelle, voilà, l'ensemble des supporters de Mazembe, ainsi que nous, observateurs, on est bien évidemment derrière Mazembe pour essayer justement d'aller chercher cette qualification. Ça sera compliqué, c'est vrai. Mazembe va jouer à l'extérieur, mais bon, tenant compte de l'expérience de son entraîneur, ainsi que de quelques joueurs qui sont là dans cet effectif, Mazembe justement peut essayer de contraindre cette équipe angolaise avec une qualification qui peut se dessiner au bout. Mais ça serait un match intéressant, mais je pense sincèrement voilà, que c'est l'équipe la plus réaliste ou celle qui sera voilà, psychologiquement forte, certainement qui va remporter cette explication. Et donc, il faudra mettre toutes les chances de son côté pour essayer justement de rafler cette qualification. Mazembe et Petro, c'est un 0-0 à l'aller. Voilà, les deux formations vont partir avec beaucoup de ferveur et pour essayer justement de contraindre l'autre à abdiquer, tout simplement. Mais bon, comme je le disais tantôt, il faut essayer justement de mettre un peu d'effort du côté de Mazembe pour tenter justement de rafler cette qualification. On y croit, bien évidemment, mais bon, ce n'est que la réalité du terrain qui va départager les deux formations. Voilà, Amine Birouk, c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport justement à cette actualité de la Ligue africaine de champions ici du côté congolais. Mazembe qui continue à représenter fièrement la République démocratique du Congo depuis les éliminations de Lupopo et des vrais clubs dans les autres compétitions interclubs. Voilà, on se retrouvera certainement le samedi prochain. On croise les doigts en espérant avec une qualification du tout-puissant Mazembe pour les demi-finales de cette Ligue africaine de champions. Bonne continuation et on se retrouvera le samedi prochain pour d'autres actualités sportives ici en République démocratique du Congo. Au revoir.
Et on sera toujours ravis de t'accueillir, cher Michel Tobo. Direction Tunis avec Ahmed Adala. Bonjour.
Bonjour Ami, bonjour à tous les chers auditeurs et auditrices de Radio Mars.
C'est le grand soir pour l'Espérance de Tunis, histoire de retrouver un rang que le club n'a jamais abandonné, être régulièrement en demi-finale de la Champions League. Mais déjà, commençons par le match aller qui s'est soldé à Radès sur le score de 0-0. Pourquoi les hommes de Miguel Cardozo n'ont pas réussi à franchir les buts de l'équipe de la SEC d'Abidjan?
Et où l'Espérance a totalement dominé la rencontre avec une équipe qui a choisi de jouer la défense et de chercher un nul 0-0, que soit par le deux rideaux défensifs, que soit par le bloc bas, qui était très bas d'ailleurs, ou par le recours aux pertes de temps, même si l'arbitre n'a pas vu ça. Et malheureusement pour l'Espérance, le ballon a touché la barre transversale ou horizontale, et ou le poteau plutôt, mais n'a pas réussi finalement à mettre un but qui pourrait la délibérer. Aujourd'hui, c'est une autre paire de manches. Certainement, la SEC ne va pas adopter le même style de jeu que celui lors du match aller. Ils vont certainement attaquer avec un Salifo Diarasoba qui aura le numéro 10 de la SEC. C'est le joueur clé de la SEC qui aura comme rôle, contrairement au match aller, là où il était plutôt un milieu de terrain défensif, un pivot, là on va avoir un autre Salifo Diarasoba et un autre Poco, l'attaquant. Mais certainement, ça va aider l'Espérance qui n'a pas trouvé de problème pour arriver à la zone de surface, à la surface de réparation pour le du club adverse, mais qui n'a pas pu mettre le ballon au filet.
Alors, quels sont les atouts de l'Espérance pour ce match retour dans un contexte qui sera totalement différent à Abidjan?
Bah, Abidjan, déjà, comme vous étiez à Abidjan, donc vous étiez en Côte d'Ivoire lors de la CAN Amin, vous avez certainement remarqué, constaté la présence d'un diaspora tunisien. Il y a 3 500 Tunisiens qui sont en Côte d'Ivoire. Il y en a entre 2 500 et 3 000 qui sont basés à Abidjan. Certainement, l'Espérance aura ses supporters derrière elle. Il faut pas aussi oublier qu'il y a eu un déplacement. Disons que c'est un déplacement massif pour un moins 5 comme le mois de Ramadan, ou pour un déplacement à Abidjan dans des circonstances économiques qui sont plutôt difficiles. On a vu 250 à 300 supporters tunisiens qui ont fait le déplacement, que ce soit de Tunis ou de d'autres villes européennes ou en Afrique. S'ajoutent à cela les supporters, les Tunisiens qui vivent, qui sont résidents à Abidjan. Donc, ils vont faire certainement le déplacement. Voilà, donc on s'attend à une force vocale. On a déjà vu le show hier.
Hier
devant le stade, Félix Boigné. Oui.
Allô? Mais tu disais le show, mon cher ami.
Allô? Oui, on a vu le show. Il y a eu un craquage des supporters tunisiens, des supporters de l'Espérance, devant le stade Félix Boigné et devant l'hôtel de l'Espérance. On a vu de très belles images. On s'attend à traduire cette énergie donnée par les supporters de l'Espérance. On s'attend que cette énergie passe aux joueurs, et on va voir le résultat sur terrain aujourd'hui.
Alors on va parler de football féminin avec une sélection tunisienne qui a disputé une rencontre amicale. Une fois n'est pas coutume, elle a profité de la date FIFA pour pouvoir s'étalonner face à l'Algérie avec une belle victoire. Est-ce que ça veut dire aussi que on prépare sérieusement les éliminatoires de la CAN 2024 et d'autres horizons enfin en Tunisie?
Exactement. La sélection féminine a déjà commencé d'ores et déjà les préparatifs pour aux éliminatoires de la prochaine CAN par la programmation de ces deux matchs amicaux. Le premier, il s'est soldé sur une victoire nette des femmes tunisiennes de l'équipe de la sélection féminine contre l'Algérie 2-0, avec une très bonne équipe algérienne, mais une équipe tunisienne qui était là, qui a répondu présente pour ce rendez-vous. Il y aura un deuxième match dimanche. Écoutez, on l'a vu, cette sélection face aux Marocaines, on était plutôt déçus par le résultat, que ce soit pour le match aller ici à Tunis, à Slimane plutôt, ou pour le match retour. Il manquait beaucoup de choses. Le match arrivé dans des circonstances très difficiles, on en a déjà parlé sur les ondes de Radio Mars, on en a parlé à Amine. Là, une nouvelle ère, il faut vraiment aller à l'avant et peut-être tenter de se qualifier à la prochaine Coupe du Monde ou aux prochains Jeux Olympiques.
En tout cas, je rappelle que la Tunisie avait fait bonne figure lors de la dernière CAN, atteignant les quarts de finale et disputant après le barrage les matchs de pré-barrage et barrage pour aller à la Coupe du Monde. Merci beaucoup, Ahmed Adela. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer à parler de football tunisien dans Mars Africa. Beaucoup de choses à dire concernant ce pays qui a toujours été à l'avant-garde au niveau de ses clubs et bien évidemment capable de réaliser de bons résultats un peu partout. Cap sur le Mali, cap sur Bamako avec Drissa Niono. Bonjour Drissa.
Bonjour Amina, bonjour à toutes et à tous.
Alors on va commencer par cette défaite surprenante de l'équipe du Stade Malien face à Dreams. Personne ne s'y attendait à Bamako.
Et tout à fait, et même les supporters ont été surpris. Et donc le Stade Malien qui a montré deux visages lors de cette rencontre face aux Ghanéens de Dreams FC, où en première période, ils se sont créés des occasions, ils ont eu des opportunités. Malheureusement, il a manqué du réalisme et de l'efficacité. Donc, en seconde période, à la 53e minute de jeu, suite à ce coup franc décomposé, et Mamadou Yoro Diaby, le défenseur des Blancs, va ouvrir le score, mais quelques minutes plus tard, c'est le capitaine Antoui de Dreams du Ghana qui va égaliser, avant de corser l'addition sur penalty, suite à une main dans la surface de réparation de Issa Yakubu, un autre Ghanéen de la défense du Stade Malien de Bamako. Alors, résultat, 2-1 au finish et une première sortie manquée du nouveau sélectionneur, du nouveau coach Mamoutou Kané Mourlé, qui a quand même déclaré en conférence de presse qu'il a perdu et qu'il garde encore espoir pour aller chercher cette qualification du côté du Ghana demain au stade Baba Yara Stadium de Kumasi.
Alors, quels sont les motifs d'espoir que pourrait avancer le supporter du Stade Malien et l'entraîneur du club?
Alors, il faut reconnaître qu'au sein des supporters du Stade Malien, en tout cas, ils sont divisés. Il y a certains qui n'y étaient pas pour la démission ou pour le renvoi de Sekou Bakou, parce que ils disent que les objectifs qui lui ont été assignés ont été atteints parce que la direction lui avait demandé d'ici de qualifier le club pour la phase de poule, ce qui a été fait. Et en plus de ça, il a pu quand même sortir de cette phase de poule, ce qu'un club malien n'avait pas fait, et surtout le Stade Malien de Bamako depuis 11 ans. Et ensuite, en championnat, c'est vrai, il restait sur 6 matchs où il ne gagnait pas, mais il était quand même à 7 points du leader Joliba AC. Et ensuite, il est toujours en cours en Coupe du Mali où il doit jouer en quart de finale contre Asco. Donc, malheureusement, c'est suite à une mésentente entre le coach et un membre de la direction. Donc, finalement, Bakosek a été limogé. Alors, certains étaient pour l'arrivée de Mourlé, d'autres n'étaient pas pour l'arrivée de Mourlé. En tout cas, ceux qui ont opté pour le comeback de Mourlé, en tout cas, gardent espoir parce que lors de ce premier acte, il y avait un certain Franck Tessier, le meilleur buteur de cette formation, et son capitaine qui était absent pour cumul de cartons. En plus de ça, d'autres joueurs n'étaient pas en forme, dont notamment l'ailier Daouda Koulibaly. Le jeune Dacine Kouba également n'a pas trouvé ses jambes. Donc, pour eux, le fait que le club a pu se déplacer et donc par un jet, par un avion affrété, donc, ils se préparent dans la sérénité. Donc, ce sont ça également ces motifs parce que pour le stade, d'aucuns, également quand au Mali ici, ce qu'on dit, c'est que généralement, le Stade Malien de Bamako joue mieux à l'extérieur qu'à domicile. Il y a des résultats qui le prouvent également lors de cette campagne. Cette victoire, 3-1 du côté des Diables Noirs face au Congo. Donc, lors de la première journée de phase éliminatoire, ils étaient allés, lors du début de la campagne également, s'imposer sur un club libérien par un score également de 3-2. Donc, voici ces motifs qui sont avancés par ceux qui, quand même, ont opté et ceux qui sont pour le comeback de Mourlé pour venir à la tête du Stade Malien de Bamako, continuer la saison avec les Blancs. En tout cas, du côté du Mali également. Beaucoup de supporters disent, vu ce qu'ils ont vu en première mi-temps face à la même formation, s'ils parviennent à rééditer ces mêmes performances, ça peut marcher. Et vu que le stade également, c'est vrai, est un club quand même qui a de l'expérience dans cette compétition. C'est la première hein, de cette formation du club ghanéen. Donc, le coach ghanéen a dit qu'ils vont jouer la qualification. Cela veut dire qu'ils vont défendre pour le stade. Il va falloir jouer et aller marquer. Et même Toukadi Morley, encore une fois, je le dis, a déclaré en conférence de presse qu'il reste optimiste et qu'ils allaient partir pour aller tenter de gagner et ensuite avoir cette qualification.
L'espoir fait vivre, cher Drissa Nuno. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, histoire de faire le bilan et de continuer à évoquer tout ce qui concerne le football malien. Il est 10h42, il va falloir faire une escale en Guinée. Est-ce que notre ami Alpha Madi est prêt? Alpha Madi, bonjour.
Allô.
Bonjour Alpha Madi.
Bonjour.
Alors on va parler de cette sélection du Sili National U23 qui va devoir disputer dans quelques semaines un barrage qualificatif pour l'édition de Paris 2024. Et visiblement, mais le petit plat dans les grands du côté de Conakry avec des renforts de choix, notamment celui du sélectionneur du Sili, Kaba Diawara.
Oui, il y a un gros imbroglio hein, dans le pays en ce moment, dans l'espace audiovisuel guinéen, enfin médiatique guinéen, concernant ce choix de la Fédération guinéenne de football. Parce que, rappelons que, alors, il faut faire l'historique pour qu'on comprenne la situation. C'est que le coach Morlaï Cissé, qui était à la tête de cette équipe des U23, a conduit l'équipe au Maroc lors de la CAN U23. C'était sa première expérience et il a terminé quatrième. Donc, du coup, il a décroché une place pour les barrages. Ce qui s'est passé, c'est qu'à son retour, le comité de normalisation l'a débarqué, disant que l'objectif était de terminer troisième et de se qualifier. Donc il est resté comme ça. Après il y a eu les élections à la Fédération guinéenne de football. La nouvelle fédération, donc le nouveau comité exécutif, a jugé bon de le ramener pour qu'il reprenne la tête de l'équipe nationale de Guinée. Donc il a repris la tête. Il a fait un stage il y a quelques jours en Espagne. Il a joué contre les États-Unis notamment. Ils ont lourdement perdu et il a joué contre une équipe de deuxième division qu'il a gagné. Donc à la surprise générale, pour peut-être ceux qui ne sont pas trop connectés à l'actualité du football du Sili National notamment, à la surprise générale donc, on apprend que c'est Kaba Diawara qui va diriger cette équipe et pour le match de barrage notamment qui aura lieu le 9 mai en France. Ce qui est pour ceux qui suivent l'actualité et qui sont proches un peu de ce qui se passe autour de l'équipe nationale, une suite logique de plusieurs tentatives à l'époque de Kaba Diawara, notamment à la CAN, il y était pendant les préparations, il y était, il a plusieurs fois sollicité donc être auprès de cette équipe pour la diriger. L'incompréhension, c'est qu'il y a eu que des matchs amicaux et on décide donc de mettre Kaba Diawara. Et l'explication trouvée, c'est qu'il y a 9 joueurs dans cette équipe des U23 qui sont également dans l'équipe A. Et donc Kaba aurait la maîtrise sur ces joueurs-là. Il peut, selon le communiqué, hein, je résume un peu, convaincre les clubs et leurs dirigeants à laisser ces joueurs pour qu'ils viennent porter main forte à l'équipe U23 pour décrocher la qualification. Le match est important. La Guinée n'a pas été au JO dans cette catégorie de football depuis 68. Donc il y a ces arguments qui ont été développés mais qui suscitent l'incompréhension générale parce que comme je dis au mois de juin déjà enfin pour les il y a le Sili qui arrive qui doit se préparer pour les journées FIFA du mois de juin et Kaba Diawara avec son staff. Donc ce n'est pas que lui d'ailleurs, avec son staff qui doit diriger cette équipe des U23, alors qu'il y a un staff qui avait été précédemment mis en place avec des anciens internationaux comme Kemoku Kamara que vous connaissez dans le staff, etc., comme entraîneur des gardiens et d'autres. Morlaï Cissé lui-même qui était sélectionneur, est un ancien international. Voilà, donc c'est l'incompréhension générale, quoi. On ne comprend rien du tout, donc c'est plus l'incompréhension que les renforts cités par les médias pour accompagner l'équipe afin de décrocher cette qualification.
Et le fond de ta pensée, mon cher ami Alpha?
Allô?
Et le fond de ta pensée, qu'est-ce que toi tu en penses?
Moi, je pense que en fait, je n'arrive pas à comprendre en fait. Ma pensée, c'est que je n'arrive pas à comprendre. J'essaie de me dire peut-être que je sais pas. Comme j'ai dit, Kabadjara a toujours lorgné à cette équipe sur cette équipe de l'équipe de U23 de Guinée. Et vous mettez la logique là où la logique n'y est pas. Vous mettez en place un staff technique. Vous le reconduisez parce que le staff avait été débarqué par le comité de normalisation. Donc vous reconduisez cette équipe, vous nommez le sélectionneur plus tout le staff au complet. Vous meublez le staff, vous décrochez des matchs de préparation pour le même staff, vous envoyez cette équipe en Espagne, ils jouent des matchs amicaux. Et après, derrière, vous dites que le match qui arrive, dont vous ne connaissez même pas l'adversaire, parce qu'on ne connaît même pas contre quelle équipe la Guinée doit jouer, vous jugez d'ores et déjà que le staff que vous avez nommé il y a quelques semaines n'est pas capable de passer ce cap-là et qu'il faut qu'il soit totalement remplacé. Alors, j'aurais compris un renfort, que Kaba vienne par exemple en renfort avec certains membres du staff du Sili A pour appuyer l'équipe afin qu'elle se qualifie. Mais changer totalement l'équipe, faire venir l'équipe A, enfin le staff de l'équipe A à la tête de l'équipe U23, je pense que c'est une incohérence inouïe. Et voilà, ça ne fait que commencer. Malheureusement, il y a beaucoup d'incohérences comme ça. Récemment, lors des FIFA Series en Arabie Saoudite, on a justement écarté Kaba Diawara, qui est l'entraîneur de l'équipe A, pour faire venir un entraîneur local pour spécifiquement diriger cette compétition, enfin ces matchs amicaux des FIFA Series, qui a convoqué des joueurs locaux, etc., qui se sont retrouvés là-bas pour jouer des matchs amicaux contre des adversaires n'étaient pas forcément à la taille de la Guinée. Donc il y a plusieurs décisions comme ça quand même qui commencent à nous poser à pousser des interrogations chez les observateurs.
Je remercie notre ami Alpha Madi pour sa disponibilité, sa réactivité par rapport à cette information de dernière minute qui concerne la nomination de Kaba Diawara à la tête de la sélection U23 de Guinée qui va devoir disputer un match de barrage contre la 4e sélection sur le continent asiatique en vue de disputer les Jeux Olympiques de Paris. Ce sera pas du gâteau déjà si la Guinée se qualifie puisqu'elle se retrouvera dans le groupe où il y aura la France et les États-Unis. 10h49 sur Radio Mars, 10h49 sur Mars Africa. Nous allons à Yaoundé retrouver notre ami David Eyengue. Bonjour David.
Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Mars.
Alors, ravi de te retrouver. Je sais que le sujet n'est véritablement pas très sympathique, mais c'est un sujet qui touche l'opinion publique camerounaise et cette guéguerre à distance entre le ministère de tutelle, la Fédération camerounaise de football, et au centre, il y a un certain sélectionneur nommé par le ministère. Il est belge de nationalité, il s'appelle Marc Bryce. Quels sont les tenants et aboutissants de ce sujet qui résume peut-être un dicton? Le ridicule ne tue pas au Cameroun.
Écoutez, je dois vous dire que, pour être franc, il n'y a jamais de sujet sympathique en journalisme. Donc, on est en plein dedans et au Cameroun, on a la particularité d'avoir toujours des sujets aussi croustillants. Et celui, comme vous le dites, c'est celui de la désignation du futur entraîneur des Lions Indomptables. Vous savez qu'il y a un bras de fer entre le président de la fédération et le ministre de tutelle. Donc, c'est qui défait la chronique au Cameroun depuis 3 jours déjà, parce que entre communiquer les uns chacun dans son bureau envoie un communiqué et on constate, n'est-ce pas, que un coup a été rendu au travers d'un communiqué qu'on voit sur la toile. Alors le sujet, c'est que en réalité, vous savez que depuis le 29 février 2024, l'entraîneur sélectionneur ou le manager sélectionneur Rigobert Song n'a pas vu son contrat reconduit et du coup l'équipe nationale du Cameroun est donc restée sans entraîneur sélectionneur, d'où la période FIFA est passée vierge pour André Onana et ses coéquipiers qui étaient obligés de venir vadrouiller au Cameroun à jouer le petit copain, ce qu'on appelle le 2-0 au Cameroun, pendant que les autres équipes nationales étaient en train, n'est-ce pas, de jouer des matchs internationaux. Il est donc au Cameroun un problème, celui de la désignation de l'entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables.
Non, y a pas
de... L'équipe nationale du Cameroun est sans entraîneur. Et il y a un décret de 2014 qui stipule que c'est le président de la fédération qui devrait normalement faire un choix ou bien désigner quelques noms pour l'arbitrage du ministre des Sports et de l'Éducation physique, mais ce décret-là n'a pas été respecté par le ministre parce que, bien que le président de la fédération ait choisi un certain nombre de personnes qu'il a proposé au ministre des Sports et de l'Éducation physique, quelques jours après, il se trouve que le ministre a fait un choix et c'est celui de Marc Brice. Marc Brice, un Belge qui n'a pas de carte de visite selon le président de la fédération, qui n'a pas une hauteur, n'est-ce pas, pour entraîner les Lions Indomptables. Le problème ne serait peut-être même pas seulement le sélectionneur Marc Brice, le Belge, mais la suite, parce que c'est 13 personnes qui ont été nommées, dont un qui était secrétaire général de la Fédération Camerounaise de football avant de démissionner en 2022, et qui disait qu'il ne voulait pas être la danseuse du président. Donc il est parti, et c'est lui qui revient, donc Benjamin Banlock, nommé comme par le ministre comme le coordonnateur des équipes nationales. Voilà quelques noms qui font quand même des problèmes sur la désignation d'un entraîneur par le ministre des Sports, et le ministre voudrait que le président de la fédération valide, ce qui n'est pas possible pour le président de la fédération.
Alors justement, est-ce que c'est la personnalité de Samuel Etoffis qui dérange ? Est-ce que c'est plus un conflit de personnes qu'un conflit qui vise l'intérêt général ?
Il faut dire que c'est la personnalité de Samuel Eto'o qui dérange d'une part, et les choix. Vous savez, Samuel Eto'o, il a été élu en décembre 2021 et il a dit qu'il voulait, n'est-ce pas, que la Fédération Camerounaise de football soit comme la Fédération allemande. C'est-à-dire que il a ses standards et il pense donc, en ayant ces standards-là, qu'il faut donner ce même standard à l'équipe nationale, aux équipes nationales du Cameroun, et c'est peut-être ce qui dérange, parce que sur une note qu'on a vue encore depuis ce matin sur la toile, Samuel Eto'o a demandé trois entraîneurs, Hervé Renard, il y avait Cannavaro parmi les trois, le ministre a trouvé que ceux-là qui étaient sur la shortlist de Samuel Eto'o envoyé par le président de la fédération étaient trop chers pour le Cameroun. Donc, je pense que le salaire était évalué à environ 80 millions de francs CFA, dont 1,5 million d'euros par an. Et le ministre a dit qu'il ne pouvait pas payer. Et il est donc allé chercher celui qui était moins cher. Et donc, la personnalité de Samuel Eto'o ne peut pas accepter qu'un entraîneur du Cameroun choisi par lui ou bien validé par lui soit un entraîneur de seconde ou de troisième zone. Voilà donc la personnalité de Samuel Eto'o dérange. Et il a été élu. Malheureusement, on ne peut pas débarquer un président élu. C'est ce qui fait problème au Cameroun depuis un temps.
Merci beaucoup David Yenge pour tous ces éclaircissements. On se retrouve très prochainement pour continuer de suivre ce sujet très épineux concernant les Lions Indomptables. On arrive à la fin de l'émission. On vous donne rendez-vous très très bientôt, la semaine prochaine. Alors en attendant, peut-être une dernière escale du côté de Ouagadougou, chez notre ami Jean-Modeste Ouedraogo. Bonjour Jean-Modeste. On va aller très vite.
Bonjour Amine, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mass Africa.
Alors justement, le Burkina Faso ne répond plus au niveau de la sélection nationale. Est-ce que l'opinion publique, après ces rencontres amicales et ces dates FIFA, n'est pas alarmée par l'état inquiétant des choses, d'autant plus qu'il y a des échéances au mois de juin? Très rapidement, est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'on va rappeler les anciens qui ont disputé la dernière Coupe d'Afrique des Nations et qui avaient été écartés?
Ben, je peux vous dire que après les deux matchs amicaux, ce qui s'est passé, c'est que Le média officieux Kader Traoré a été limogé, on va dire, sinon il a démissionné de son poste. Ça veut dire que c'est pas encore fini. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sérénité autour de cette équipe. Cette équipe a trop de problèmes. Et je crois que ça commence à inquiéter les spectateurs et puis tous les observateurs de football burkinabé, parce que pour nous, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas compter sur les meilleurs éléments. Parce que s'il y a indiscipline, il va falloir le dire clairement pour que toute l'opinion puisse savoir ce qui se passe exactement dans cette équipe. Mais personne n'en parle. On ne parle que d'indiscipline. Je crois qu'au mois de juin, le Burkina aura besoin de tous ses atouts pour pouvoir aller affronter d'abord l'Égypte et puis recevoir la Sierra Leone.
Merci beaucoup Jean-Modeste Ouedraogo. C'était bref, concis, précis et intéressant. On se retrouve la semaine prochaine. On arrive à la fin de l'émission. La semaine prochaine, il y aura la Champions League et la Coupe de la CAF avec un premier bilan des quarts de finale ou un dernier bilan des quarts de finale. Et on se projettera sur les éliminatoires des JO. Il y aura les matchs retour disputés mardi prochain. Et puis, on en saura un peu plus sur la CAN de futsal qui démarque au Maroc et qui démarrera à partir de jeudi prochain à Rabat. Merci à Samad qui était à la réalisation. C'était nickel, chrome parfait. On se donne rendez-vous samedi prochain si vous le voulez bien. Come on, come on. I see no changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero. Get it back to the kids, who the hell cares? One less hungry mouth on the welfare. First ship them, don't let them deal with brothers. Keep them guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. How can the devil take my brother if he's close to me? I let it go back to when we played as kids, but then changed. That's the way it is. Come on, come on.
That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh, yeah.
Hear me.
Oh, come on. That's just the way it is.
Changes. All I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to races. We under, I wonder what it takes to make this one better place, let's erase the wasted. Take the evil out the people, they'll be acting right. It's both black and white, and smoke a crack tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes skill to be real time to heal each other. And although it seems evident, we ain't ready to see a black president. It ain't a secret, don't conceal the fact. The penitentiary's back, and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but you're staying in the dope game. Now tell me what's the mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way.
I made it cheap today.
But you made it in a sleazy way. Sell a crack to the kids.
I gotta get paid.
Well, hey, well, that's the way it is. Come on. Come on.
That's just the way it is. Things will never be the same. Just the way it is. Oh yeah.
Damn, yeah.
That's just the way it is. Things will never be the same.
Yeah, yeah, yeah. Oh yeah.
That's just the way it is. Oh yeah.
Oh yeah.
We gotta make a change. It's time for us as a people to start making some changes. Let's change the way we eat. Let's change the way we live, and let's change the way we treat each other. You see, the old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do to survive. And still I see no changes. Can a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did a crime I ain't have to do. But now I'm back with the facts, giving it back to you. Don't let them jack you up, back you up, crack you up, and pimp back you up. Get jealous when they see you with your mobile phone. But tell the cops I can't touch this. I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's the sound number two. You say it ain't cool. My mama didn't raise no.
like I gotta stay strapped and I never get to lay back.
Ramadan Mubarak Said على راديو مارس.